Bienvenue, vous écoutez Radio Galère 88.4 et vous êtes dans l'émission Une heure en Palestine. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'on passera cette heure. Moi, c'est Marie. Vous m'avez déjà entendu dans cette émission aux côtés de Philippe de Palestine 13 et dans le podcast que j'ai co-créé avec mon collègue Mewen Petar. On l'a appelé Yalla, je t'emmène. Et vous vous en doutez, dans ce podcast, c'est en Palestine qu'on vous emmène, plus précisément en Cisjordanie. Et c'est précisément depuis la Cisjordanie que je vous parle aujourd'hui, depuis Ramallah pour être exact. Ramallah, c'est la capitale de facto de l'autorité palestinienne. On est à 15 km au nord de Jérusalem à vol d'oiseau. Mais Ramallah, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, vous me direz que ce n'est pas exactement représentatif de la réalité en Cisjordanie. Et c'est précisément la raison pour laquelle je vais vous emmener un peu plus loin aujourd'hui. On va d'abord aller à la rencontre de Mouna Ibaye, une professeure de français à l'université de Bir Zeit. Bir Zeit, c'est une petite ville à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah. Elle va nous raconter comment se passe l'enseignement dans cette université qui, au passage, est la meilleure université de Palestine. Elle est même classée 12e au classement des universités du monde arabe. Mouna sera aussi accompagnée par deux de ses étudiantes, Alia et Isra, qui ont participé au choix Goncourt de l'Orient, qui réunit des étudiants et des étudiantes de tout le monde arabe pour récompenser le meilleur livre parmi une sélection. Je ne vous en dis pas plus, c'est la professeure Mouna et ses étudiantes Alia et Isra qui nous expliqueront tout ça. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Vous êtes sur Radio Galère dans l'émission Une heure en Palestine et vous venez d'entendre un extrait de Fayrouz, la seule et unique, et cette chanson s'appelle Ya Ana, qui veut dire « Au moins, au moins ». Je vous emmène donc à l'université de Bir Zeit. Elle n'est pas exactement dans la ville de Bir Zeit même, donc pour s'y rendre, il faut y aller en voiture. Évidemment, tous les étudiants n'ont pas de voiture, alors souvent c'est en service qu'ils s'y rendent. Ce sont des minivans orange qui annoncent leur destination. Très souvent, les chauffeurs conduisent à toute berzingue dans les virages qui longent les collines jusqu'à parvenir devant le campus de l'université qui compte pas moins de 13 000 étudiants et étudiantes. Une fois arrivé au campus de l'université de Bir Zeit, il faut slalomer entre les multiples facultés et les étudiants qui vont et viennent. Pas facile de s'y retrouver dans cet immense dédale de fac. Nous, c'est au département de français qu'on retrouve la professeure Mouna et ses étudiantes Alia Khalaf et Isra Hussein. Et plus exactement dans le bureau de la professeure Mouna. On est toutes les quatre assises autour de la table, un espace calme, fenêtre ouverte avec les babillements des étudiants et étudiantes qui passent de salle en salle et de bâtiment en bâtiment.
Donc là, j'ai l'entrée. commencer l'enregistrement.
Ça doit être, oui, sens vertical, parce que là...
Pour que ça capte vraiment la voix qui va vers le bas.
C'est vrai, voilà.
Alia et Isra expliquent être un peu stressées. Elles se sont préparées, Alia a son téléphone devant elle, note ouverte. Isra, quant à elle, a déplié un papier griffonné de notes. On commence par un rapide tour des présentations.
Bonjour, je m'appelle Isra Hussein. Et je te dis la langue française à l'université de Birzeit. C'est ma quatrième année, la dernière année ici. Et j'habite à Beit Dokkou. Et oui, je suis palestinienne.
Moi, je m'appelle Alia Khalaf. Je te dis la langue française à l'université de Birzeit. Je suis en troisième année. Moi, j'adore lire et dessiner. Et j'étais la présidente du jury et j'ai représenté mon université est à Beyrouth et je suis très contente de faire ça.
C'est la professeure Mouna qui ferme la marche des présentations et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la participation au choix Goncourt de Lorient, il était important de revenir sur le contexte. C'est quoi d'étudier, c'est quoi d'enseigner dans une université en Palestine ?
Mouna Ebaye, je suis professeure de français à l'université de Birzeit depuis presque 14 ans. Je suis professeure à l'université de Birzeit, mais aussi la directrice du département de français depuis 3 ans. Donc, être enseignante à Birzeit, c'est surtout enseignante de français. C'est vraiment, on a un double rôle quand on dit, on est enseignant, il y a le côté éducatif, etc. Enseignement pur, mais il y a aussi le rôle où je revendique mon rôle d'être enseignante de cette langue, qui est une langue internationale étrangère pour les étudiants, surtout dans un pays qui est non francophone. Mais il y a tout le côté culturel, politique, etc., qui est lié, qui est associé à cette langue. Et donc, quand on enseigne cette langue, il y a aussi ce passage vers la culture française et aussi francophone, et vers la politique des pays, vers tout ce qui est nouvelles technologies, etc., sciences. Et donc, les étudiants, ils découvrent aussi les cultures donc, liées à cette langue. Et donc, il y a toujours, je dois faire attention à mes choix de texte, je dois faire toujours attention à comment didactiser tel ou tel document, quelles représentations elles seront passées à travers ce support ou ce document, cette vidéo, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de stéréotypé ? Est-ce qu'il y a toujours le côté position de pays, politique ou autre ? Donc, ça, c'est vraiment, et quand je dis un double rôle, ça veut dire que je dois vraiment faire attention à tout ce qui est lié à... aux étudiants, au support, à la culture, aux présentations. Vraiment, c'est quelque chose, je me responsabilise en enseignant en fait cette langue. Et ça, c'est très important, je pense, en tant que palestinienne, mais aussi qui enseigne en fait une langue étrangère telle le français.
Ce double rôle qu'endosse la professeure Mouna, elle explique l'avoir d'autant plus ressenti après le début de l'agression sur la bande de Gaza.
Après le 7 octobre, qu'on dit cette date qui est vraiment, oui, maintenant historique, qui a vraiment infiltré l'agression sur la bande de Gaza, etc. Donc il y a eu le côté vraiment, et les étudiants, ils voulaient boycotter la France, il y a eu vraiment donc, cette histoire de rejet ou de déni envers cette langue, parce qu'il y avait cette... propagande pro-israélienne qui est passée par les médias français et par les médias européens et francophones. Et les étudiants qui voulaient toujours apprendre la langue, et il y a la culture, etc., et qu'ils passent aussi par la politique qui est anti-palestinien, on peut dire même, et qui vraiment représente les Palestiniens et comme des terroristes, etc. Donc là, Il y avait aussi une responsabilité de la part des enseignants à comment passer l'info et même sensibiliser les étudiants à choisir tel ou tel, donc où il faut lire sur la Palestine, où il faut vraiment trouver des supports ou des sources, je veux dire, qui vraiment racontent ou passent la réalité ou la vraie histoire de la Palestine. Et que ça ne soit pas vraiment pro-israélien, c'est surtout ce côté. Et donc, on a essayé quand même de changer dans nos supports, de parler un peu pour un texte littéraire, de trouver quelque chose de Mahmoud Darwish qui est lié vraiment à la liberté, etc. En français, bien sûr. Et vraiment d'essayer de rassurer peut-être les étudiants vers le côté où la langue, c'est un outil de résistance. La langue, c'est vraiment un moyen, c'est un avantage. Vous êtes bien privilégié d'avoir cette langue dans votre répertoire langagier. Alors, vous avez l'arabe, mais aussi comme les autres, mais vous avez aussi le français. Donc, vous êtes responsable d'aller dire à n'importe quel francophone, on peut dire. Donc, de parler de notre réalité. On a essayé de faire des activités vraiment en solidarité avec les Gazaouis, surtout, et en français. Ça veut dire vraiment pour leur montrer que cette langue, c'est vraiment... Anatou, c'est vraiment, vous êtes bien privilégié de parler cette langue, donc vous pouvez l'utiliser pour votre pays, pour votre cause palestinienne et pour vraiment pour être solidaire surtout avec les Gazaouis et pas seulement les Gazaouis, mais il y a aussi beaucoup d'autres régions en Palestine qui souffrent aussi des attaques des colons et des attaques de l'armée israélienne. Donc on voulait surtout parler même dans un cours normal comme introduction à la langue française, c'est vraiment un cours destiné aux vrais débutants. Il y a présenté une personne, donc on a pris un journaliste, Mortaza Azaizi par exemple. Donc là, présenter Mortaza Azaizi, de la nationalité, l'âge, etc. Donc comme ça, elle voyait qu'il y avait aussi, on ne veut pas se déconnecter en fait de ce qui se passe à Gaza.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si d'une part il y a cette violente agression contre la bande de Gaza et ses habitants, la Cisjordanie n'est pas épargnée non plus. On en parle moins, et pourtant tous les habitants de Cisjordanie sont aussi confrontés à la violence de l'occupation israélienne. L'université de Bir Zeit et ceux qu'elle compte comme étudiants, professeurs et employés en général, tous y sont confrontés, et même au sein de l'université elle-même. C'est ce qu'explique la professeure Mouna. Juste après le 7 octobre, beaucoup de choses ont changé.
Mentalement, on n'avait pas le moral, on n'avait pas la morale, on n'avait rien du tout. Et vraiment, la première période, elle était très difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes de circulation, de déplacement dans les villes. C'est pour ça qu'on a alterné. En fait, on a changé. C'était un semestre. On est passé à l'enseignement en ligne pour tout le premier semestre. Ça veut dire octobre, novembre, décembre jusqu'à février. C'était février, mars. Mars 2024, ça veut dire vraiment, il y avait 6 mois ou plus où on était enfermés dans les maisons parce qu'on a installé de nouveaux portails en fait sur beaucoup de villes et de villages.
On va s'arrêter un instant pour revenir sur ce mot que la professeure Mouna emploie assez banalement mais qui porte en lui une réalité sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse quand il s'agit de parler de la réalité en Cisjordanie. La professeure Mouna a parlé de portails. L'armée israélienne a installé des portails, c'est-à-dire des checkpoints, qu'on pourrait aussi appeler des barrages militaires. Ils sont parfois fixes, c'est-à-dire construits, installés indéfiniment, et parfois ils sont mobiles. C'est un processus arbitraire qui consiste à contrôler les allées et venues des Palestiniens sur les routes. Ça entrave très nettement leur liberté de mouvement, puisqu'il est quasiment impossible d'entrer ou sortir d'une ville, ou voire même de village, sans passer par l'un de ces points de contrôle où sont en règle générale postés des soldats israéliens, armés, qui arrêtent les voitures une à une, ou pas, selon les ordres et les envies. Ils posent parfois des questions, réclament des papiers d'identité, bref, c'est non seulement une entrave à la liberté de mouvement des Palestiniens, mais aussi une incroyable perte de temps, à plusieurs égards. D'abord, parce que ça crée des embouteillages, et d'autre part, parce que si on veut s'éviter des « tracas », pour employer un euphémisme, on doit faire un incroyable détour pour parvenir à destination, sans même la garantie qu'on ne tombera pas sur un autre barrage militaire israélien plus loin sur la route. Et ce qu'explique la professeure Mouna, c'est ce que l'université de Bir Zeit a mis en place contre l'incroyable multiplication des checkpoints juste après le 7 octobre 2023. Et ce n'est pas la seule difficulté à laquelle les étudiants et professeurs de l'université ont été confrontés. Il y avait aussi les attaques de colons. En bref, ce qu'on appelle les colons en Cisjordanie, ce sont les personnes qui vivent dans les colonies implantées illégalement en Cisjordanie. D'après le droit international, ces colonies sont installées en violation du droit international, ce sont donc des colons illégaux qui y vivent. Et ils représentent 20% des personnes qui vivent en Cisjordanie. Déjà avant le 7 octobre, on parlait d'attaques de colons parce que ceux-ci sont souvent armés et ont des velléités très violentes d'accaparement des terres palestiniennes qu'ils s'approprient en attaquant les Palestiniens. Leur esprit de revanche s'est particulièrement exacerbé après le 7 octobre, comme l'explique la professeure Mouna. Écoutez.
c'était très difficile de circuler parce qu'il y avait les attaques des colons. Ils sont devenus plus agressifs. Et ils ont commencé même à être tous armés, je pense, même. Et donc, c'était très dangereux, en fait, même de venir à l'université, à la fois pour les étudiants et les enseignants et les employés. Et donc, on a fait un semestre complet, et même plus, donc, en enseignement en ligne. Donc, c'était un changement important aussi, parce qu'on avait commencé, en fait, le semestre trois semaines plus tôt. Ça veut dire avant le 7 octobre, on était déjà au début de semestre, donc on donnait des cours en présentiel, normal. Et donc, après le 7 octobre et le début des bombardements sur la bande de Gaza, etc., donc là, en Cisjordanie, la situation, elle est devenue vraiment très dangereuse pour les étudiants, les employés, etc.
Une situation aussi compliquée, ce serait décourageant pour beaucoup, mais ici non seulement le fait de s'adapter est une des clés de voûte de la société palestinienne, mais c'est encore plus vrai pour ce qui est de l'éducation.
Oui, on dit toujours, c'est notre éducation, donc nous on étudie parce que ça c'est notre moyen de survie, donc ça fait de résistance, donc voilà. Donc, oui, ça, c'est l'un des objets coloniaux, comme on dit parfois. Donc, c'est vraiment d'interdire l'éducation, d'entraver tout ce qui est droit à l'éducation, pas seulement de vivre, etc. Mais il y a aussi le côté éducation qui est aussi important. Et je pense que l'occupation israélienne... Et elle essaie toujours de vraiment d'enfermer les étudiants ou peut-être les arrêter ou peut-être donc d'avoir beaucoup de faire beaucoup d'obstacles, de mettre des obstacles, d'installer des obstacles aussi contre le processus d'éducation ou contre vraiment l'enseignement, etc. Donc les étudiants, ils sont toujours dans ce côté, c'est interdit, je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas poster ou publier des trucs sur les réseaux sociaux, parce que aussi pendant cette période, il y avait beaucoup d'arrestations, surtout les étudiants de Jérusalem, je me rappelle, quand ils postent quelque chose où il y a Gaza, Palestine, etc., ils ont été arrêtés et emprisonnés, donc il y avait aussi cette peur de même qui est lié à la liberté d'expression. Donc, on ne peut pas s'exprimer sur la situation. On ne peut pas dire qu'on est solidaire avec nos frères et notre peuple palestinien qui vit à Gaza.
Et comme si tout ça ne suffisait pas déjà, la professeure Mouna explique que l'occupation israélienne vient parfois jusque à l'intérieur de l'université de Bir Zeit, soit de manière très visible, avec des voitures de l'armée, soit de façon déguisée.
Ils ont pris d'assaut l'université plusieurs fois. Ils ont même arrêté. C'est quelque chose de vraiment d'inattendu. C'est toujours comme ça. Et ils sont toujours déguisés en tenue arabe, en fait. Et donc, ils entrent à l'université. Les étudiants, ils ne savent pas que ça, c'est vraiment des forces spéciales de l'armée israélienne. Et donc, ils arrêtent, en fait, les étudiants... du mouvement étudiant, et on n'a plus de conseil étudiant, on n'a aucun membre de conseil étudiant, elles sont tous en présent, dans la présent, tous, donc on n'a plus de conseil étudiant, on a actuellement seulement des étudiants d'ici et de là, et qui ont formé quelque chose qu'on appelle mouvement étudiant, donc ça regroupe tous les partis, on peut dire, et... le président de conseil, les autres personnes, en fait, elles sont tous en présent. Et malheureusement, elles ne se sont pas présentées, en fait, au tribunal. Il n'y a ni procès, ni inculpation, rien de tout. Elles sont en détention administrative.
Détention administrative, ça signifie l'arrestation d'un ou d'une Palestinienne, pas forcément des étudiants d'ailleurs, et ce, sans charge, sans procès, pendant 3 mois renouvelables à volonté. D'après l'organisation palestinienne Adamir, qui travaille pour soutenir les droits des prisonnières et prisonniers palestiniens, en mai 2025, ce sont plus de 3500 personnes qui ont été arrêtées et placées en détention administrative. Parmi eux, il y a évidemment des étudiantes et des étudiants de l'université de Bir Zeit, comme l'expliquait la professeure Mouna. Parce qu'une chose qu'il faut préciser, c'est que comme dans beaucoup d'autres pays, l'université n'est pas seulement un lieu d'enseignement et d'éducation, c'est aussi un haut lieu de politisation. Donc forcément, l'occupation israélienne garde toujours un œil sur ses étudiants et les activités au sein de l'université. Parmi ces activités, il y en a une peut-être un peu moins politique que d'autres, c'est le Choix Goncourt de l'Orient que la professeure Mouna explique animer depuis bien longtemps.
Moi, j'ai animé en fait le Choix Goncourt de l'Orient, qui a été organisé par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et ça fait 13 ans en fait qu'on participe à cette activité. Depuis la première année, en fait, on a commencé à participer à cette activité. Et sauf l'année dernière, 2023, où les agressions contre la bande de Gaza ont commencé, et il y a eu ce silence, où aussi l'Agence universitaire de la francophonie elle n'a pas réagi en fait, à tout ce qui s'est passé. Et leur réaction elle était un peu plus tard par rapport en fait, aux autres universités ou institutions internationales. Et donc, on a refusé de continuer en fait, de l'activité. Donc c'est Choix Goncourt de l'Orient. Et puisqu'il y a normalement au début de l'année, septembre, octobre, il y a le Goncourt de la France. Mm-hmm. Donc, et c'est la même sélection, les mêmes, en fait, il y a la même sélection. Donc il y a les 15 ouvrage, je pense, ça c'est la première sélection. Après, donc le Choix Goncourt de l'Orient, c'est à partir de la deuxième sélection, ça veut dire 8 ouvrages. Les étudiants, normalement, elles doivent lire 8 ouvrages. Et on forme un jury étudiant, troisième, quatrième année, donc les étudiants intéressés. C'est pas dans le cadre d'un cours, donc c'est vraiment c'est l'intérêt de lire, l'intérêt. Côté vraiment étudiant qui aime lire, qui aime vraiment participer à une activité qu'on considère certainement régionale et internationale, parce que c'est sur toute la région de Moyen-Orient. Donc il y a d'autres pays, d'autres étudiants de français, des autres départements de français. Il y a le département de français à Najaf aussi qui participe. Chaque année, depuis 13 ans, il y avait aussi le département de français à l'université Al-Aqsa, à Gaza, bien sûr, qui a été détruite. Donc on n'a plus de contact avec ni les professeurs ou les étudiants. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'autres universités en Jordanie, en Syrie, en Irak, au Yémen, Chypre, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, oui, le Koweït, c'est vrai, et l'Égypte, peut-être j'ai oublié. Et il y a le Liban, bien sûr. Donc la majorité, le nombre max, donc la grande majorité du jury, c'est au Liban, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de départements de lettres modernes, etc. au Liban. Et donc, cette année, il y avait 37 jurys, je pense, étudiants. Les étudiants, ils doivent lire, préparer des petites fiches de lecture, faire des petites présentations entre eux en tant que jury, pour parler de l'auteur, pour parler du livre, les personnages, etc., ce qui est intéressant, pas intéressant. Et pourquoi donc, le but final, c'est vraiment de voter pour le meilleur parmi les ouvrages, les 8 ouvrages, et de justifier, bien sûr, argumenter pour après Alia, donc la présidente de jury, aille à Beyrouth pour défendre notre choix Goncourt. Il y a aussi le côté écrit, c'est vrai, et les étudiants, elles peuvent aussi écrire des chroniques littéraires sur le livre qu'elles ont lu, donc le roman qu'elles ont lu. Il s'agit surtout, bien sûr, aussi de quelque chose d'optionnel, donc ils ne sont pas obligés en fait d'écrire, etc. Mais normalement, les chroniques littéraires elles seront publiées sur le blog Choix Goncourt de l'Orient, donc sur internet. Et, qu'est-ce qu'il y a aussi? On a fait plusieurs réunions. Et aussi, on a fait 2 réunions avec le Liban, l'AUF, avec les autres étudiants. Donc, c'est vraiment une activité qu'on anime au département depuis des années. Et ça fait plaisir toujours aux étudiants de lire des livres en français et après d'être membre dans un jury étudiant. Et puisqu'il y a d'autres étudiants dans d'autres universités dans la région de Moyen-Orient, et alors ça c'est le côté plutôt motivant ou intéressant aux étudiants.
Alors forcément, choix concours, sélection de livres, on se demande forcément quel livre a été retenu. Alia, Isra et la professeure Mouna ne laissent pas planer le doute très longtemps parce que c'était comme une évidence.
Et en fait, tous les étudiants ont choisi Jacaranda comme premier choix.
Jacaranda, vous l'avez forcément vu dans les rayons de vos librairies et dans tous les endroits où vous pouvez vous procurer des livres. Il est partout. Sa première de couverture est noire et violette. C'est un arbre en contre-jour avec un ciel violet. Le violet, c'est la couleur de la fleur de l'arbre, Jacaranda. Un arbre emblématique du Rwanda où prend place le nouveau roman de Gaël Faye que vous connaissez peut-être puisqu'il avait déjà écrit un premier livre à succès sur le Rwanda, Petit Pays, qui a été largement adapté au cinéma, au théâtre, ici en France et à l'étranger. Ou alors peut-être que vous connaissiez Gaël Faye pour ses chansons puisqu'il est aussi auteur, compositeur, interprète. Évidemment, il chante aussi le Rwanda, comme dans cette chanson Kwibuka que je vous propose d'écouter avant de demander à Alia et Isra pourquoi c'est le roman de Gaël Faye qui a été retenu à l'unanimité par les étudiantes et les étudiants de Bir Zeit.
Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, ô Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. Un million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit. À se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you. Kwibuka, je rêve de vous. Kwibuka, I'm dreaming of you. Kwibuka.
Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie, sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
C'était Kwibuka de Gaël Faye, ça veut dire se souvenir en Kinyarwanda. Vous êtes toujours sur Radio Galère dans l'émission Une heure en Palestine et Alia était sur le point de nous expliquer pourquoi le nouveau roman de Gaël Faye, Jacaranda, a été sélectionné par la délégation palestinienne pour le choix Goncourt de l'Orient. En deux mots, Jacaranda, c'est l'histoire de la mémoire encore vivante du génocide des Tutsis au Rwanda dans les années 1990 à travers les yeux d'un enfant. Et voici donc pourquoi ce roman a touché Alia et ses camarades.
Et il y a une raison un peu spéciale, la raison principale grâce à laquelle on a décidé de choisir Jacaranda comme premier choix. Et pour moi et pour les étudiants, c'était la force du message humain universel. Et on a pensé que Jacaranda parle d'un génocide rwandais et d'une manière profondément humaine et émotionnelle, et car le roman ne raconte pas seulement les faits, mais il transmet la douleur, la survie et même si la mémoire. Et moi, en lisant Jacaranda, je savais qu'on ne peut s'empêcher de faire la parallèle avec ce que vit le peuple palestinien et le génocide rwandais, bien que historiquement et géographiquement différent, et réveille chez nous une douleur et une mémoire très familière. Quand j'ai lu Jacaranda, j'étais très choquée parce que je sentais que je peux ressentir une communauté africaine qui est si loin de moi, si loin de nous, mais pas seulement d'un côté d'humanité, mais aussi parce que nous vivons une expérience similaire depuis 77 ans.
Alia ajoute qu'il y a une dernière raison pour laquelle ce livre a retenu l'attention du jury palestinien et pas seulement d'ailleurs. On l'a dit, Jacaranda, c'est l'arbre emblème du Rwanda. Eh bien, il y a aussi un arbre emblème en Palestine.
Dernièrement, on a décidé de choisir Jacaranda et faire le lien entre Jacaranda et le Levier en Palestine, parce que Jacaranda, en fait, c'est un témoin de la guerre, de la génocide et de Rwanda, mais aussi on a l'olivier, c'est un témoin aussi, c'est deux arbres, mais avec on est deux pays différents, et géographiquement très loin, mais une histoire très similaire. Et le témoin ici, c'est pas le, ce ne voit le gens, mais ce sont des arbres. Oui, c'est pourquoi j'ai décidé avec mes collègues de choisir le roman Jacaranda comme premier choix.
Comme l'explique Alia, l'olivier a une place très particulière dans la culture palestinienne. Et c'est une des choses dont on a parlé dans le podcast Yalla, je t'emmène. C'est dans le 9e épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. L'épisode s'appelle « Des racines et des graines », Soumoud. Je vous laisse écouter. Cette idée de rester enracinée est centrale dans la culture palestinienne, comme ce à quoi ça fait référence, l'olivier. Des arbres endémiques, qui sont parfois centenaires, qui étaient là avant nous, les humains, qui resteront après nous, et dont les branches représentent la paix, même chez nous en France. L'image de l'olivier revient sans cesse dans la poésie palestinienne, riche et centrale, comme dans ce poème du célèbre poète Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish est l'un de ces rares poètes à avoir été connu de son vivant. Je crois que ça tient surtout à un talent de mettre en mots des sentiments profonds et communs à tout le peuple palestinien, toutes générations confondues.
سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد الصيف فهل تغضب؟ سجل
inscrit
أنا عربي
je suis arabe
اسم بلا لقب
mon prénom est commun
صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب
je suis patient dans un pays bouillonnant de colère
جذوري قبل ميلاد الزمان رست
mes racines fixé avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers. C'était un extrait du 9e épisode du podcast Yalla je t'emmène que j'ai créé pour laisser la parole aux Palestiniens de Cisjordanie pour raconter leur réalité, en l'occurrence pour parler de résilience avec le concept de Soumoud. Mais je vous propose d'en revenir à Alia, Isra et la professeure Mouna, et à ce choix Goncourt de Lorient. Comme Alia était très impliquée, elle a aussi été désignée par ses camarades comme présidente du jury pour la délégation palestinienne. Et en sa qualité de représentante de la délégation palestinienne, elle a pu voyager à Beyrouth, au Liban, où se sont tenus les débats pour sélectionner le livre gagnant.
Pour moi, j'étais très inquiète, mais quand je suis arrivée là, je savais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup des étudiants qui ont choisi Jacaranda. Et ça, c'était très... Oui, des autres pays comme Irak, et Liban, et Jordanie, et c'était très ravi. Mais j'ai demandé aux étudiants pourquoi vous avez choisi Jacaranda. Ils ont dit une histoire très similaire comme la guerre et la génocide libanaise, la guerre libanaise civile. Et les étudiants d'Irak ont dit aussi que c'est un lien avec le Palestine, avec la situation politique ici, et qui est fait aussi le sud du Liban. Et pour eux, c'était un choix très important et on ne peut pas ignorer un roman comme Jacaranda qui parle d'une histoire très importante à lire.
En poursuivant la conversation autour du choix Goncourt de Lorient, on comprend que le choix du livre pour la délégation palestinienne n'était pas seulement basé sur l'histoire du roman ou son style d'écriture. Le choix avait aussi une dimension politique. C'est ce qu'explique Isra, complété par la professeure Mouna.
Pour moi, j'ai lu Le Riz de Kamel Daoud. À travers ce roman, il y a le personnage principal qui est Ob. Et en arabe, c'est-à-dire le Fajr. Ob raconte son histoire pendant la guerre civile entre le gouvernement algérien et un mouvement islamiste. Entre les années 1992 et 2002. Alors, il raconte, Ob, il a perdu ses cordes vocales car il a été égorgé. Et il raconte l'histoire des mille de femmes algériennes qui confrontent la souffrance et les atrocités pendant cette guerre. Mais on a la exclu. C'est pas pour des raisons que l'histoire n'était pas, yani, n'était pas suite cette le concours, mais c'est à cause des opinions ou les croyances de l'auteur, qui est Kamel Daoud. Kamel Daoud est connu par ses idées contre l'islam, contre les Arabes, contre la langue arabe. Il a comme un trauma. Alors, il mélange entre la guerre civile et les signes noirs et le génocide de Gizaoui après le 7 octobre. Elle a dit que le génocide Gizaoui, c'est à cause du mouvement islamiste Hamas. Et il a dit que aussi, je ne soutiens pas la cause palestinienne. En tant que Palestinien, on refuse cela. Ce n'est pas une situation, yani, quand il y a des gens qui meurent, ils ont bombardé, massacré, torturé, emprisonné. Il y a eu beaucoup des atrocités chaque jour, chaque moment. On n'accepte pas une opinion, par lui, de dire « je ne soutiens pas la cause palestinienne ». Alors, on l'a exclu, cette roman.
Oui, ben Isra, elle était en train de lire. Et après, on a lu plusieurs nouvelles journalistiques liées en fait aux opinions de Kamel Daoud, parce qu'il faut toujours faire des recherches sur des auteurs, s'informer, présenter l'auteur, etc. Et pendant cette petite enquête sur les auteurs, l'idée c'était surtout, et avant de lire le roman, il faut vraiment s'informer sur le contexte, etc., donc l'auteur, donc ce qui est très important aussi pour même connaître le lien entre le roman et l'auteur, si c'est quelque chose, par exemple, Jacaranda. Et donc, on a lu un article sur Kamel Daoud, et où il dit que c'était aussi des frappes terroristes, et surtout, non, quand elle a parlé des frappes israéliennes qui tuent des civils palestiniens, que c'était des frappes faites par erreur, donc c'était aussi,
c'était un accident.
C'était, oui, donc c'était, on voyait quelqu'un, c'est pas seulement le côté musulman ou c'est anti-islamiste, mais les anti-palestiniens de tout ça, tout simplement. Et donc, et justifier un génocide, donc c'est pas facile, on boycotte tout de suite. Donc et puisque l'université de Birzeit, elle pratique le boycott économique, académique, de tout genre, et donc et en tant que département de français et aussi étudiant à l'université de Birzeit, on a tout de suite exclu le roman. Esra, elle a continué la lecture parce qu'elle voulait quand même écrire une chronique littéraire, mais on l'a exclu de notre choix Goncourt.
On a terminé notre conversation sur ce que ce choix Goncourt de Lorient a apporté aux étudiantes. Isra a commencé en disant ceci.
Pour moi, je suis toujours, toujours intéressée de lire l'histoire algérienne. Okay. Et je vois nous-mêmes, les Palestiniens, dans l'histoire algérienne. De voir qu'après 100 et 30 ans, la colonisation française, après la guerre de libération qui conduit à la mort d'un million et demi-million d'Algériens, et après tout cela, l'Algérie a obtenu la liberté. Ça m'a donné l'espoir que, malheureusement, tout ce qui se passe sur le territoire palestinien, Inch'Allah, on va gagner notre liberté aussi.
Et à la question de ce que cette expérience leur a apporté, Alia a répondu quelque chose de plutôt inattendu. Bien sûr, elle a expliqué ce que lui avait apporté cette expérience de lecture et de participer à ce choix Goncourt de Lorient, mais elle est aussi revenue sur un autre aspect, celui de son voyage à Beyrouth, au Liban. Écoutez.
Pour moi, c'était pas seulement pour améliorer mon français, améliorer mon niveau, et c'était une expérience très nouvelle pour moi. C'était en fait le premier voyage pour moi. C'est pourquoi j'étais très inquiète, mais à la même temps, mon père m'a encouragée de voyager et de lire. Mon expérience à Beyrouth était très riche et était une expérience merveilleuse. Et il y a une raison très particulière. C'était la première fois que j'ai vu la mer. Parce que moi, ici, je suis interdite d'aller aux régions qui sont occupées pour voir la mer.
On va s'arrêter un instant ici. Peut-être que vous vous interrogez. Pourquoi Alia est-elle interdite de voir la mer ? Pour expliquer brièvement, Alia est une Palestinienne de Cisjordanie. Ça veut dire que pour se déplacer sur ce qu'elle appelle les territoires occupés, et qu'en France on appellerait Israël, il lui faut un permis qui lui sera délivré, ou non d'ailleurs, par les autorités israéliennes. Or, pour voir la mer, elle et les 3,3 autres millions de Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie doivent impérativement avoir ce permis pour aller de l'autre côté du mur qui les sépare de la mer Méditerranée. Pour elle, le Liban, c'était donc non seulement son premier voyage, une occasion de voir la mer, mais aussi de rencontrer d'autres étudiants, avec d'autres réalités, comme cet Irakien à qui elle a demandé si lui pouvait aller voir la mer.
Alors, quand je suis arrivée à Beyrouth, la première chose que j'ai vue, c'était la mer. J'étais très, très ravie et ça me donnait... la réflexion, tous les jours, je marchais pour voir la mer. C'était une expérience très touchante pour moi. Et moi, en fait, j'ai rencontré un ami irakien. Il a dit que c'est son première fois aussi de voir la mer. Mais je lui ai demandé pourquoi tu peux aller à la mer. Mais il a dit qu'il vit dans une ville très loin de la mer. Et moi, je savais qu'il peut aller à la mer, mais il ne peut pas à cause des choses, à cause des raisons normales. Mais moi, je savais que je ne peux pas aller à la mer à cause des raisons politiques, mais ce n'est pas possible. Et quand je suis arrivée ici, j'étais très déprimée depuis deux semaines. J'ai parlé avec l'écrivaine Salma Kujo que j'ai dit je suis très déprimée parce que je peux plus voir la mer.
Cette expérience a donc véritablement bousculé Alia et ses camarades en les poussant à continuer. Alia, par exemple, aimerait bien à nouveau participer l'an prochain et se voit bien essayer d'écrire un livre à son tour, dans le futur.
Et la mer, c'est une raison très, très spéciale pour moi et pour laquelle je suis très ravie de participer à ce concours. Et moi, en fait, j'aime écrire et j'aime lire et j'aimerais étudier la littérature et j'aimerais faire un master. Et moi, j'ai promis à mon père que si j'ai grandi et j'ai eu la chance d'être un écrivaine, je vais écrire ça dans mon livre. Oui. Et moi, je suis franchement heureuse d'avoir eu l'honneur de rencontrer l'écrivaine Salma Kojok et Madame Miran Tralaf et tous les responsables de la AEF. Il y avait un programme très organisé et très excellent. Et enfin, je recommande à tous les étudiants à participer à cette belle aventure et pour vivre une expérience aussi riche.
Une expérience qu'Alia recommande en expliquant que son principal regret est de ne pas avoir vu l'un ou l'une des étudiantes de Gaza participer. Jusqu'à présent, il y avait un représentant de l'université de Bir Zeit, en l'occurrence Alia, de l'université de Naplouse, qui s'appelle Al-Najah, mais aussi de l'université Al-Aqsa, à Gaza. Alors, impossible de ne pas en dire un mot pour Alia.
Moi, j'ai une chose que je veux dire. Quand je suis arrivée à la AEF, je vois quelque chose lié à l'université de Al-Aqsa. Et après ça, je vais descendre pour parler, discuter avec les étudiants et dire que le choix de concours de l'Orient était jacaranda. Moi, je suis la personne qui a parlé de ça en arabe et il y avait un étudiant qui a annoncé ça en français. Alors, avant l'annoncement, j'ai vu prier pour l'université d'Al-Aqsa. Et j'étais très, je ne sais pas, mais j'étais très influencée. J'ai dit, j'étais très triste qu'il n'y a pas un étudiant qui représente l'université de Al-Aqsa. Et l'université était détruite et bombardée. Les étudiants, on ne sait pas la situation des étudiants. Ils sont morts, ils sont bien, je ne sais pas. Mais j'étais très triste. Et quand j'ai annoncé le prix, j'ai dit que je suis très triste parce qu'il n'y a pas un étudiant qui vient de l'université de Al-Aqsa. Nous sommes tous palestiniens. Et en fait, en général, chaque année, il y a 3 étudiants en Palestine. Cette année, c'était 2. Moi et une étudiante qui vient de l'université de Al-Najah. C'est pourquoi je pense que la lecture, c'est un moyen de résistance et on ne peut pas arrêter de faire ça. Et je souhaite que j'étais un bon représentant pour mon pays et pour eux aussi.
C'est la professeure Mouna qui explique que les étudiants de Gaza ont pourtant déjà participé par le passé, mais que cette année, c'était impossible comme on peut se l'imaginer.
Il y a le département de français à Najah aussi qui participe. Chaque année, depuis 13 ans, il y avait aussi le département de français à l'université Al-Aqsa, à Gaza, bien sûr, qui a été détruite. Donc, on n'a plus de contact avec ni les professeurs ou les étudiants.
L'université de Al-Aqsa à Gaza a été détruite comme 11 autres universités dans la bande de Gaza. Les officiels israéliens ne s'en cachent pas d'ailleurs puisqu'ils qualifient les universités de, je cite, « incubateurs de terroristes ». Par ailleurs, il est difficile d'estimer le nombre d'étudiants et professeurs qui ont été tués ou qui sont encore en vie. Ce qui est sûr, c'est que ce sont près de 88 000 étudiants et étudiantes de la bande de Gaza qui sont privés d'un système d'enseignement supérieur viable. Il y a bien des cours qui se tiennent, certains étudiants expliquent que c'est même leur seul moyen de se trouver à se distraire des horreurs qui se passent en continu dans la bande de Gaza, mais qu'il ne reste rien de leur rêve, détruit à mesure des bombardements incessants, des innombrables déplacements forcés et de la famine qui touche leur famille de près ou de loin. Alors, pour avoir une pensée pour les étudiants et étudiantes de Gaza, je vous propose d'écouter une chanson interprétée par la chorale de Gaza du Conservatoire National de Musique Édouard Saïd. Elle a été publiée il y a 5 ans sur YouTube et s'appelle « Salut Gaza ». C'est un hommage au peuple gazaoui. Bienvenue, on est de retour dans l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère et vous venez d'écouter Salut Gaza, une chanson interprétée par la chorale de Gaza du Conservatoire National de Musique Edward Saïd, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ainsi que s'achève cette heure en Palestine. Avant de partir, je tiens à remercier très chaleureusement la professeure Mouna Ibaye, Alia Khalaf, présidente du jury de la délégation de l'université de Bir Zeit auprès du choix Goncourt de Lorient, ainsi que Isra Hassein, l'une des participantes qui s'est aussi beaucoup impliquée pour ce choix Goncourt. Je les remercie sincèrement pour leur temps. Je ne sais pas pour vous qui nous écoutez sur Radio Galère ce que vous en pensez, mais personnellement j'ai été très impressionnée par leur niveau de français et leur engagement. Je crois qu'on peut tous leur souhaiter, à Isra, Alia et bien sûr la professeure Mouna, le meilleur pour la suite. On sait bien que le futur est parfois difficile à imaginer pour des étudiants et des enseignants sous occupation, mais cet entretien donne un tantinet d'espoir pour les générations à venir. Pour ma part, j'ai été très heureuse de vous emmener en Palestine. Moi, c'est Marie, créatrice du podcast Yallah, je t'emmène, disponible sur toutes les plateformes. Et enfin, surtout, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés dans l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère 88.4. Bintishala.